capo alla source.
Caroline.
Et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anti-Histo Amétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. Et nous repartons pour un nouveau thème et une nouvelle série de deux épisodes. Cette fois-ci, nous quittons le Limousin pour nous diriger vers l'Orient. Je tiens par avance à m'excuser si j'écorche les noms des principaux protagonistes. Nous allons découvrir ensemble l'histoire des grandes dynasties musulmanes et de l'Empire Ottoman. Ce vaste empire s'étalait à son apogée sur tous les Balkans, la Turquie, le Moyen-Orient, l'Égypte et les régions côtières du Maghreb. Il était LA grande puissance méditerranéenne. On considère que ce géant est né en 1299. Mais remontons en arrière, plus précisément vers 632. Cette année-là, le monde perd un des hommes qui a le plus marqué l'histoire, le prophète musulman Mahomet. À son décès, il avait unifié toute l'Arabie, c'est-à-dire tous les territoires de la rive est, de la mer Rouge, partant de l'océan Indien jusqu'à peu près le désert du Sinaï. On peut dire que les premiers territoires musulmans occupaient l'ouest de l'Arabie Saoudite actuelle et les trois quarts du Yémen. La capitale est alors établie à Médine. Mais le prophète est mort sans laisser de consignes quant à son héritage. Qui doit lui succéder ? Doit-on faire primer l'hérédité et donc faire d'Ali ibn Abi Talib, fils de l'oncle de Mahomet, le successeur légitime, ou choisir le successeur parmi les plus méritants grâce à une élection? Les partisans d'une élection seront appelés les sunnites et ceux de leur hérédité les chiites. Finalement, les disciples de Mahomet procèdent à une élection et désignèrent Abu Bakr as-Siddiq comme héritier, comme calife, de l'arabe khalifa signifiant successeur. Et voilà comment la fonction de chef spirituel musulman naquit. Après Abu Bakr vint le règne d'Omar, celui d'Othman, et puis Ali devient enfin calife à son tour en 656 à la suite de l'assassinat d'Othman. À son arrivée au pouvoir, le califat occupait la Perse, toute l'Arabie, les portes du Caucase avec l'Arménie, l'Égypte et le nord de la Libye. Suite à ce meurtre, un des disciples de Mahomet est alors gouverneur de Syrie. Son nom était Muawiya. Il s'allie avec la veuve du prophète pour obtenir justice. Il entre en rébellion. Finalement, à la bataille de Siffin en 657, les deux camps décident d'arrêter les hostilités et de recourir à un arbitrage. Seulement, des alliés d'Ali refusent tout arbitrage puisqu'ils estiment, je vous rappelle, qu'Ali a un droit héréditaire et a été choisi par Mahomet. Ils entrent donc eux aussi en rébellion. Mais ça ne s'arrête pas là. La même année, voyant que l'agitation couve en Égypte, Ali remplace son gouverneur, faisant ainsi éclater la révolte dans le pays. Muawiya saisit l'occasion et envahit l'Égypte. Ali se fait finalement assassiner par ses partisans. Son fils Al-Hassan devient calife. Mais voyant la puissance de Muawiya, qui entre-temps avait rallié à lui de nombreux chefs arabes, conquis des territoires et s'était lui aussi fait reconnaître comme calife, Al-Hassan demanda la paix. Il renonça au califat au profit de Muawiya, qui, en guise de remerciement, le fait assassiner en 669, éliminant ainsi son rival qui pouvait être considéré par certains comme plus légitime que lui. On considère que Muawiya prit donc le pouvoir en 661. Et c'est ainsi que la première grande dynastie musulmane vit le jour, le califat Omeyyade. La capitale se déplace ainsi à Damas. Nous connaissons bien, nous petits français, cette dynastie, puisqu'à l'école, on nous a appris que Charles Martel, maire du palais et ancêtre du futur Charlemagne, avait arrêté l'avancée omeyyade lors de la bataille de Poitiers en 732. En fait, en 732, il ne s'agissait pas vraiment d'une invasion, même si effectivement Narbonne était alors occupée par les musulmans. Cette bataille était en fait contre une armée, cherchant plus à piller qu'à occuper. Mais nul doute qu'un jour, les armées musulmanes, sans véritable résistance des Francs, auraient tenté leur chance. L'Espagne, quant à elle, a été occupée en partie puis entièrement par les musulmans à partir de 711 jusqu'à la fin de ce que l'on appellera, bien plus tard, la Reconquista, le 2 janvier 1492. Et là encore, peut-on vraiment appeler une reconquête la conquête de territoires sur plusieurs siècles? Surtout quand en 711, la péninsule ibérique est occupée par les Visigoths, et ce depuis la fin de la province de l'Hispanie romaine. Rappelez-vous que nous avions déjà parlé de cette tribu lors de notre épisode sur le Limousin gallo-romain. Vers la fin de l'Empire, ce peuple avait été invité comme tribu fédérée à s'installer en Aquitaine en échange de défendre les frontières. Seulement lors de la chute, ils ont occupé l'Espagne et l'équivalent de la région Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui, formant ainsi un royaume visigoth. Ce royaume disparut après les conquêtes des Francs au nord, menées au départ par le roi Clovis, et au sud par cette invasion musulmane. Et les Omeyyades franchissent donc le détroit de Gibraltar et se lancent à l'assaut. Le roi Roderic, l'un des derniers rois visigoths, perd la vie à la bataille de Guadalete. Le gouverneur musulman qui est mis en place épouse Egilona, veuve du roi Roderic, et organise ses territoires sous la forme d'un émirat dépendant du califat. En 716, les Arabes commencent à diriger leurs forces vers les Pyrénées pour tenter d'entrer dans le royaume des Francs. C'est alors que le gouverneur est assassiné à Séville. L'émirat tombe ainsi dans une crise d'une quarantaine d'années où les gouverneurs et soulèvements se succèdent. Il faudra véritablement attendre 788 pour que l'émirat se stabilise.
Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais
dans l'âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile. Car où tu marches, tu cries son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais ne pense qu'à ses amants.
Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Je t'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais, c'est rigolade, je suis déjà passé par là.
Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Mais qui est ce camarade? Je parle de ça, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà.
Mais pendant ce temps, plus à l'est, dans le calife Omeyyade, les troubles persistent. Il n'est pas rare que différents seigneurs se soulèvent et se proclament califes de telle ou telle branche des croyances musulmanes. Si bien qu'en l'an 750, les armées omeyyades vont un jour entrer en conflit avec une autre puissante famille, les Abbassides. Alors que les omeyyades sont originaires d'une tribu qui dominait la Mecque au temps de Mahomet, les Abbassides descendent quant à eux de l'oncle du prophète, Al-Abbas. On est, je vous le rappelle, que 118 ans après la mort de Mahomet. Même s'il n'y a plus de contemporains de son époque, il existe encore des liens de filiation clairs. On a donc une nouvelle illustration du conflit entre ceux qui souhaitent que le pouvoir soit transmis aux descendants de Mahomet et ceux qui souhaitent qu'il soit transmis aux héritiers spirituels. Seulement, depuis l'accession des Omeyyades, le pouvoir est toujours dévolu à un de leurs membres. Donc en fait, le conflit devient dynastique. L'un des principaux facteurs de ce soulèvement abbasside est la corruption qui gangrène l'État, notamment les gouverneurs des provinces lointaines du califat. La révolte partit donc de la ville irakienne de Koufa. Les soutiens des Abbassides firent élire As-Saffa, premier calife. La confrontation entre l'Omeyyade Marwan II et les soldats abbassides se fait lors de la bataille du Grand Zab au sud de Mossoul, au confluent de la rivière Zab et du Tigre. L'armée omeyyade est plus nombreuse, mieux entraînée, mieux équipée et plus expérimentée, mais elle soutient sans conviction le calife omeyyade. Et elle est démoralisée par la série de défaites infligées au début de la révolte. Elle charge cependant par excès de confiance en son expérience. Et le résultat est dramatique pour les Omeyyades qui se font battre. Marwan II dut s'enfuir en Égypte où il fut assassiné. Toute la famille Omeyyade est elle aussi traquée et mise à mort. Excepté un certain Abd al-Rahman. Ce prince se réfugie en Espagne où il conquit l'émirat après la bataille d'Al-Musara. Il proclame ensuite son indépendance avec l'empire abbasside, rompant ainsi l'unité du monde musulman. Mais il continua de reconnaître l'autorité religieuse du calife abbasside. il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de l'émir Abd al-Rahman III en 929 pour que ce dernier prenne le titre de calife, affirmant ainsi la complète indépendance du califat cordouan par rapport à celui des Abbassides. Par la suite, l'émirat fut très mal perçu par le monde musulman, car vu comme une dissidence menaçant l'unité spirituelle. Les Omeyyades évincés du pouvoir, les nouveaux souverains abbassides poussent leurs frontières à l'ouest en prenant une à une les villes d'Afrique du Nord jusqu'à parvenir en 761 aux portes de Kairouan qui se situe dans l'actuelle Tunisie où ils enrayeront leur progression préférant se concentrer sur l'Irak et l'Asie d'où sont issus une grande majorité des soldats abbassides. Mais l'empire va une nouvelle fois se diviser. Après la sécession de Cordoue vient le tour des Fatimides. Les Fatimides sont des chiites, leur origine remonte à Fatima, la propre fille de Mahomet et épouse d'un certain Ali. En 909, ils contrôlaient la partie maghrébine du califat abbasside. Plus tard, ils occuperont l'Égypte, la rive est de la mer Rouge et toute la Palestine. Nous les connaissons pour avoir été les principaux adversaires des croisés lors de la première croisade. Première croisade qui eut lieu entre 1096 et 1099 en plein déclin du califat. En effet, à partir de 1060, le territoire des Fatimides se réduit, jusqu'à ne plus comprendre que l'Égypte. La croisade a été déclenchée à la suite de la conquête de Jérusalem par une autre dynastie musulmane, mais cette fois-ci sunnite, les Turcs Seldjoukides. Ces derniers refusaient le libre passage aux pèlerins. Seulement voilà, entre la conquête turque et l'arrivée des croisés, la cité avait été reprise par les Fatimides. Mais dès la nuit suivante, les premiers croisés chassaient les Fatimides de Jérusalem. Par la suite, le califat fut en lutte perpétuelle contre ses voisins et les royaumes latins. À la mort du dernier calife fatimide, Al-Hadid, le 13 septembre 1771, Saladin, l'homme qui reprit Jérusalem, annexera le califat à celui de Bagdad, le rendant ainsi au sunnisme. Mais revenons-en au califat abbasside. Petit à petit, le territoire s'est morcelé en plusieurs zones d'influence. Les anciens gouverneurs sont devenus avec le temps souverains de ces terres mais se soumettent à l'autorité religieuse du calife. On peut comparer ce phénomène à celui de la féodalité. Le roi avait en fait plus un rôle de suzerain que de souverain. En d'autres termes, il était arbitre entre plusieurs seigneurs. Les Bouyides, Chiites, Iraniens fondent ainsi une dynastie en Iran à partir de 932 jusqu'en 1055. Ils conquièrent même Bagdad mais ne déposent pas le calife. Tout en conservant un pouvoir théorique sur l'islam sunnite, les califes sont démunis de tout pouvoir réel. Les Bouyides sont écartés en 1055 par les Turcs Seldjoukides, combattant quant à eux en faveur du sunnisme. Il existe aussi d'autres dynasties sunnites, comme les Almovarides dans l'ouest de l'Algérie, la Mauritanie, au Maroc, et les Ayyoubides, la dynastie de Saladin, rempart du monde musulman contre l'invasion occidentale. Mais le califat ne résista pas à la conquête mongole. Le dernier calife est exécuté après la prise de Bagdad le 10 février 1258. Les survivants se réfugient en Égypte sous la protection des nouveaux maîtres des lieux, les Mamelouks. Le titre de calife survécut donc ainsi jusqu'à la conquête de l'Égypte en 1517 par une nouvelle puissance musulmane qui étendra une nouvelle fois le monde musulman sous une seule bannière comme à l'âge d'or des deux premières dynasties, l'Empire ottoman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons dans 2 semaines avec justement l'histoire de ce puissant empire. D'ici là, vous pouvez toujours m'envoyer vos recherches sur l'histoire locale à martin@radiovassivière.com. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne journée sur Radio Vassivière 88.6 et 92.3.
Ah, mais trop.